LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Marie Bavayani, comment vous pourriez décrire l'idéologie véhiculée par la junte des colonels ?
À part le fait qu'ils étaient ridicules, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'était un régime fasciste. Déjà parce qu'ils ont pris le pouvoir par les armes, parce qu'ils ont restreint les libertés. Ils ont emprisonné les opposants, ils les ont torturés. Pour moi, c'est un régime fasciste.
Fascistique.
Fasciste.
Nazistique.
Nazi.
Racistique.
Raciste.
Ethnicistique.
Nationaliste.
Afti.
C'est tout.
Quand vient le fascisme en Europe ? Aujourd'hui, le champ magnétique des fascismes. Dimitris Christoulakis, vous avez aussi ce souvenir du silence qui s'est installé à partir du 21 avril 1967. C'est ça aussi qui vous a marqué ?
Η διαφορά πριν της 21 Απριλίου και μετά.
La différence entre le 20 avril et le 21 avril, c'est vraiment un choc. Avant le 21 avril, on était libre de protester, de chanter et de rester dehors toute la nuit. Quand la junte est arrivée au pouvoir, il y a eu un couvre-feu. On ne pouvait pas sortir le soir. On ne pouvait pas se retrouver à plus de deux personnes dans la rue. On ne pouvait pas circuler librement dans le pays. On ne pouvait pas voyager. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans une dictature. Ils ont réactivé toutes les interdictions et les règles de la dictature de Metaxas, qui datait d'avant la guerre. Ils les ont imposés à tout le monde, dans tout le pays. Ils ont publié des listes de censure avec toutes les chansons, les pièces de théâtre, les livres et les films qui étaient désormais interdits.
Comment vous décririez l'idéologie des colonels, Costa Gavras ? Comment vous la définiriez ?
Non, les colonels, ils n'ont pas d'idéologie, ils obéissent aux Américains. Il y a des conseillers américains qui leur disent il faut faire ceci, il faut faire cela. L'armée grecque, si vous voulez, c'est des gens qui viennent des couches pauvres de la société, notamment des villages qui sont dans les montagnes, etc. Ils deviennent très vite des colonels, enfin, ils prennent des positions très très vite, ils sont très fermes, ils n'ont pas une grande éducation. D'abord, à cette époque-là, c'était pour être officier un jour, pour passer du soldat à l'officier, pour monter en grade, il fallait passer être royaliste. Et le royalisme était l'Amérique. Et l'Amérique avait tous ses conseillers qui étaient nombreux. C'est vrai qu'il y avait une violence quand même qui n'était pas celle de l'Amérique latine, on tuait. La vie n'a pas eu d'exécution. Ils ont mis beaucoup, des milliers de gens en prison. Les envoyer aux îles ou dans des camps de concentration, mais il n'y a pas eu des morts. Ça, il faut le dire. Parce qu'ils savaient que ça ne serait pas acceptable. Par l'Occident, surtout. Par le pays, naturellement, mais le pays, il est contrôlé. Mais par l'Occident, ça ne serait pas accepté. Alors, très, très vite, ils ont été acceptés. Ils ont été acceptés d'abord, dès la première semaine, par les Américains, et après, par les uns, par les autres. Et il y a eu, en France, des articles, dans les grands journaux français, des articles très favorables, dans le genre, enfin, la Grèce va être sauvée par les scandales d'argent, etc., etc., voilà.
Tout au long du XXe siècle, l'Europe a été marquée par l'arrivée au pouvoir de régimes de type fasciste. Mussolini et la marche sur Rome, il y a 100 ans, le 28 octobre 1922, mais aussi l'amiral Horthy à Budapest en 1920, Franco à Madrid en 1936, Salazar à Lisbonne en 1932 et enfin les colonels à Athènes en 1967. En revenant pas à pas sur les événements et les circonstances qui ont permis ces prises de pouvoir, coup d'État, voie légale ou guerre civile, nous tenterons de comprendre comment et pourquoi un pays bascule dans la dictature. Tout d'abord, nous commencerons par nous interroger sur ce qui relie tous ces dictateurs, qui n'ont qu'une seule obsession, sauver leur pays de la dégénérescence. Pour comprendre s'il existe réellement une idéologie commune à tous ces pays, revenons sur la nature du fascisme dans son pays originel, l'Italie, avec Marianne Matar Bonucci.
Le fascisme italien est un régime nationaliste qui veut mettre en place une forme de totalitarisme, c'est-à-dire qui vise à transformer en profondeur la société pour forger un homme nouveau, mais sur la base de valeurs éminemment traditionnelles qui sont celles précisément du nationalisme, c'est-à-dire ordre, discipline, hiérarchie. Et ces valeurs sont aussi des valeurs qui sont aux antipodes des Lumières. Le fascisme prend le contre-pied systématiquement du principe d'égalité, de l'idée de démocratie et également du principe de liberté.
Et messieurs, est-ce que Dieu existe? À qui là? Est-ce que ce cochon de Mussolini existe?
Et messieurs, il existe la Duce?
Non, la Duce n'existe pas.
Tire.
Recule. À qui là? Écoute bien. Toi non plus, tu n'existes pas.
Le fascisme italien, on l'a oublié, mais a fait école, puisque il faut bien voir qu'au cours des années 20, toutes les dictatures d'Europe, mais également la plupart des mouvements nationalistes et fascistes, c'est le cas du national-socialisme, ont l'Italie fasciste pour modèle. Alors, sans retenir tout, évidemment, parce que, et sans se référer parfois explicitement aux fascistes, parce que par définition, les nationalistes ne peuvent pas avoir de modèle étranger. Donc il est très difficile de dire j'emprunte à l'étranger, mais il n'en reste pas moins que ces régimes ont, encore une fois, un modèle implicite ou explicite qu'est l'Italie fasciste. Alors, la spécificité par rapport à d'autres dictature, mais pas par rapport au national-socialisme. Le national-socialisme et le fascisme italien vont être très proches sur quantité de domaines. Et d'ailleurs, au cours des années 20, certaines figures importantes du parti nazi se rendront en Italie pour observer ce qui se passe sur place. Et donc, les caractéristiques communes de ces deux régimes, eh bien, c'est la dictature, c'est un chef tout puissant, c'est un parti unique, c'est une certaine forme de rivalité entre les institutions étatiques et le parti, mais qui bénéficie in fine aux dictateurs. C'est également l'utilisation de la répression systématique contre les ennemis. Et la pensée du monde et de la lutte politique en termes d'amis-ennemis. La différence entre ces deux régimes jusqu'en 1938, les choses changent après 1938, c'est que pour les nazis, l'antisémitisme est absolument central et les juifs sont d'emblée l'ennemi par excellence, alors que cela ne devient le cas pour les Italiens, qu'à partir de 1938. Mais sinon, ils ont aussi quantité d'ennemis en commun, les démocraties, les communistes, l'anticommunisme est aussi au cœur donc de ces doctrines. On peut considérer que ces régimes fascistes et apparentés font système. Et au cours des années 20, il y a une polarité principale qui est l'Italie fasciste. Et la plupart des mouvements se déterminent par rapport à l'Italie. Et à partir de 1933, eh bien, la polarité se déplace vers l'Allemagne nationale-socialiste. Et dans la deuxième moitié des années 30, eh bien, on voit que les Italiens eux-mêmes entrent dans ce jeu d'influence, hein, et finissent effectivement à leur tour par faire un certain nombre de concessions à cette doctrine de la race qui s'est imposée en effet un peu partout.
Christina Koulouri, est-ce qu'on peut parler de fascisme à propos du régime des colonels en Grèce ?
C'est une version de fascisme. Il y a bien sûr des éléments de fascisme, mais ce surtout est nationalisme extrême. Bien sûr, il y a des éléments racistes et aussi anticommunisme. C'est le cadre, c'est plutôt la guerre froide que les années 30, disons.
Zito Vasiles!
Zito!
Zito η εθνική κυβέρνηση!
Zito!
Zito σαν τα τεθωρακισμένα!
Zito!
Επό! Παρουσιαστέ!
Joël Dallègre, pouvez-vous nous présenter les trois colonels qui ont pris le pouvoir en Grèce ? Et est-ce qu'on peut parler de culte de la personnalité à leur sujet ?
Alors, Papadopoulos, qui est le plus connu des trois, Patakos, qui était l'homme des blindés, et le troisième, c'est Makarezos, qui s'occupait davantage d'économie et qui est moins connu que les deux autres. On voit toujours les trois mêmes, mais culte de la personnalité, je trouve que c'est un peu beaucoup. Metaxas s'était autopromu, le premier ouvrier de Grèce, le premier agriculteur de Grèce, le premier je sais plus quoi, enfin il était le premier dans tous les métiers. Eux, ils ont jamais dit ça. Par contre, c'est vrai qu'on voyait toujours eux, et que en plus, il y avait que une chaîne de télévision, et pas beaucoup de gens qui l'avaient, et que tous les jours, on voyait quelque part l'un des trois qui avait fait quelque chose à la télévision, qu'en plus, ils avaient payé des télévisions dans certains villages qui n'avaient rien jusque-là, qu'on mettait sur la Grand Place, et donc c'était le grand spectacle. Il y avait une télé, et quand on allait voir la télé, bien sûr, on était sûr de voir l'un des trois, soit célébrer une fête, soit poser la première pierre de quelque chose. Premier parpaing, comme je disais toujours, mais il y en a eu des centaines. Enfin, quand on lit leurs textes, par moments, ils délirent. Moi, j'ai l'impression qu'ils délirent, mais ils croient très fort à leur délire. Il n'y a pas...
Colonel Papadopoulos.
Οι απάντησεις, την οποία θα αναμένετε, εάν ερωτήσετε, ομιλείτε περί δημοκρατίας και ελευθερίας, αλλά οι περιορισμοί είναι το θέσιμο του ασθενούς επί της κλίνης για να υποστεί ακινδύνως την εγχείρηση.
Mary Marie Vavayani, est-ce que vous pourriez nous décrire les colonels, leur personnalité ou la manière dont ils ont exercé le pouvoir, chacun des trois personnes ?
Δεν, εικόνα ήταν κάποιον γελίον και αστείο ατόμων. Δεν είναι, δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν.
On savait qu'ils étaient des hommes dangereux. Mais l'image qu'on avait d'eux, c'est qu'ils étaient ridicules.
Εικόνα ήταν κάποιον ατόμων γελίων, ας πούμε, περισσότερος κόσμος.
On avait peur d'eux parce qu'on savait qu'ils pouvaient tuer, torturer, mais ils n'inspiraient aucun respect.
Ούτε σεβασμό,
on n'a jamais compris comment ils avaient réussi à s'imposer et à être reconnus par les autres gouvernements en Europe. Ils étaient vraiment ridicules. Ceux qui étaient les plus connus, c'était Patakos et Papadopoulos. On les voyait tout le temps à la télévision, mais personne ne les respectait. Bien sûr, ils sont restés 7 ans au pouvoir, donc il y avait forcément des gens qui étaient de leur côté. Mais dans mon cercle personnel, dans ma famille, ou à l'université même, l'image qu'on avait d'eux était négative.
Comment vous pourriez nous décrire, Joël Dallègre, l'idéologie des colonels? Quels sont les thèmes qui sont...
Alors ça, c'est facile parce qu'ils parlent tout le temps. Ils parlent, ils écrivent. Et... Donc, anticommuniste d'abord. Ensuite, anti-parlementariste parce que, selon eux, les députés sont tous pourris, corrompus, etc. Donc, c'est mieux si on s'en débarrasse. Partisans de l'ordre, c'est pas très original. Partisans de la morale, parce que la jeunesse grecque est en train de se perdre. Donc la morale, alors la morale, ça veut dire ne pas être barbu. Ça veut dire la morale chrétienne, ça jusque-là, c'est pas très original. Mais adapté, alors faut pas être barbu, faut pas avoir de mini-jupe, faut pas écouter les Beatles qui sont un signe même d'horreur occidentale. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut pas faire, un peu stupide, mais ça fait rien. Et puis, il faut rajouter à ça l'exaltation de la nation grecque. Et alors, pour l'exalter, il faut chercher des arguments historiques. Et le meilleur argument historique, c'est encore l'Antiquité. Donc, ils ont organisé des fausses batailles de Salamine, des fêtes où on habille les gens en vêtements antiques en essayant de croire qu'ils ont avoir retrouvé je ne sais quelle grandeur perdue. Ils poussent les choses jusqu'au ridicule. Parce que vraiment, quand on voit certaines fêtes maintenant sur des vieux machins de télé, ça a l'air totalement ridicule.
Christina Koulouri, il y a d'un côté cette exaltation du passé antique de la Grèce, mais d'un autre côté, on va interdire des auteurs comme Sophocle.
Le nationalisme n'est jamais cohérent et il n'est pas rationnel. Donc c'est surtout l'élément irrationnel et qui caractérise le nationalisme en général, pas seulement en Grèce. Donc, c'était l'exaltation de la Grèce antique, oui, mais pas de la démocratie, pas des textes anciens qui étaient en faveur d'Athènes. Et pour les dictateurs, c'était surtout Sparte, et pas Athènes. Et donc, on est toujours sélectif. Hein.
Marianne Matar-Bonucci, spécialiste du fascisme italien.
Alors, quels sont les thèmes de la propagande? Eh bien, d'abord, il y a une propagande nationale très importante, c'est-à-dire que Mussolini prétend être celui qui incarne enfin véritablement la nation italienne, qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'il y a de plus glorieux dans l'histoire de l'Italie, avec bien évidemment une valorisation du passé antique et d'une période dans l'Antiquité en particulier, qui est celle de l'Empire. Donc la propagande est une propagande qui se réfère bien évidemment à l'Antiquité de manière très importante, jusque dans les symboles, hein, le faisceau bien évidemment, bon, qui était déjà apparu comme symbole dans la vie politique politique à la fin du 19e siècle, mais on voit apparaître des inscriptions SPQR en référence au Sénat et au peuple romain un peu partout, des louves également avec Romulus et Rémus, et il y a une politique propagandiste qui passe aussi par l'archéologie. Systématiquement, le régime va aller fouiller ce qu'il peut y avoir d'impérial dans le passé italien, quitte ailleurs à détruire des vestiges d'autres périodes qui pouvaient avoir un intérêt aussi historique.
Il y avait des liens avec d'autres régimes fascistes où ils se considéraient comme les héritiers de...
Ils se considèrent plutôt comme, effectivement, les héritiers de la première dictature, celle de Metaxas de 36 à 41, puisque, en fait, ces colonels ont tous été, c'est des militaires de carrière, et ils ont tous été élevés dans les écoles militaires de Metaxas. Et Metaxas avait exactement le même modèle d'idéal, l'anticommunisme, l'antiparlementarisme, oui, tout y est, un peu moins ridicule, mais c'est tout, avec des autodafés de livres interdits. Alors, on interdit tous les livres d'un auteur soupçonné d'être communiste, jusque-là, c'est logique. On interdit tous les auteurs russes, parce que du moment qu'ils sont russes, on ne sait jamais. Donc, en fait, ou même des gens, j'ai découvert un jour que Henri Troya était passé lui aussi au feu. Or, franchement, Henri Troya comme auteur communiste, mais ils ont appris qu'il était russe. Donc, ça pouvait être dangereux. Et puis, une partie des auteurs de l'Antiquité, parce que c'est bien l'Antiquité, mais si vous lisez Antigone en entier, vous y prenez des exemples de résistance au pouvoir qui sont très mauvais. Donc, du coup, vous avez droit à des morceaux choisis.
Parallèlement, les militaires interdisaient les cheveux longs, les mini-jupes, Sophocle, Tolstoï, Euripide, briser les verres à la russe, faire grève, Aristophane, Ionesco, Sartre, Albi, Pinter, la liberté de la presse, la sociologie, Beckett, Dostoïevski, la musique moderne, la musique populaire, les mathématiques modernes et la lettre Z qui veut dire « il vivant » en grec ancien.
Yves Léonard, comment Salazar a-t-il construit sa posture, son image de dictateur ?
Quand il arrive au pouvoir, en 1928-1932, c'est un homme mince, au profil acéré, quelqu'un qui est assez maigre, qui a un regard très sombre, qui est sombre, habillé en sombre, cheveux sombres, regard sombre. Ça va le rester assez longtemps, mais à partir des années 30, évidemment, il atteint, en 1939, il a 50 ans, et évidemment, son aspect physique, non pas, c'est pas un homme qui va être dans l'embonpoint ou dans la un homme rubicon, etc., il ne le sera jamais, mais son aspect physique va évoluer. C'est un homme qui est, ça a été souvent décrit, qui se pique de beaucoup de civilité, le vieux gentleman de Lisbonne, comme on disait, c'est-à-dire un homme qui est toujours vêtu de manière assez élégante, qui fait assaut de politesse, qui s'exprime dans un français parfait alors qu'il a jamais, ou il est venu quelques jours en France, mais enfin il l'a appris de manière scolaire. Il parle très bien le français, donc il sait en société, si vous voulez, respecter un certain nombre de codes qui ne sont pas les siens, mais qu'il a appris. Donc c'est un homme qui s'est fait au contact des autres, qui a copié un certain nombre de codes, et notamment les tenues vestimentaires, auxquelles il accorde toujours le plus grand soin. Avec des photos, la propagande prend beaucoup de photos pour donner à voir l'image d'un homme souriant, il ne l'est pas tant que ça, d'un homme au regard charmeur, et donc des mises en scène qui sont orchestrées pour donner cette image. mais ça reste un homme toujours un peu sur le quant à soi, sur la distance vis-à-vis des autres, un homme glaçant. C'était un homme qui jouait sur la distance, sur une image qui était celle construite par la propagande, introduisant une distance et le respect, pour susciter l'obéissance.
Mesdames, messieurs.
Mussolini, en 1931.
Je suis très heureux de saisir cette occasion pour m'adresser au public par les moyens d'une des plus merveilleuses découvertes des temps modernes. Je vous dirai quelques mots très clairs, très précis sur les problèmes qui intéressent le monde entier en ce moment, c'est-à-dire la paix ou la guerre.
Marianne Mater Bonucci, cet homme nouveau, promu par l'idéologie fasciste, il est à l'image de Mussolini.
Cet homme nouveau est à l'image de Mussolini, en effet, qui lui-même propose sa personne, son corps même, hein, comme une espèce de modèle, prenant les commandes d'un avion, se faisant prendre en photo sur un cheval, sur des skis, etc. Donc l'homme nouveau est un homme, d'abord, c'est important de le rappeler, hein, il y a une dimension très macho, très viriliste dans l'idéologie fasciste, et cet homme nouveau est d'abord un guerrier, hein, aussi, et on retrouve là l'idéal de la guerre, et à partir donc de 1937-1938, on décrétera aussi que l'homme nouveau doit être racialement pur, ce qui évidemment pour l'Italie pose quelques problèmes, enfin ça pose quelques problèmes de manière générale, mais l'Italie en particulier, l'Italie qui est le creuset de populations différentes, qui a été au carrefour de toutes sortes d'invasions dans l'histoire, la démonstration de la pureté raciale pour les Italiens sera quelque chose qui sera difficile à argumenter.
Soy un hombre a quien la suerte dio con zarpa de tierra. Soy un novio de la muerte que va a unirse el lazo fuerte con darle algo.
Amélie Nuc.
Franco est un militaire, il est reconnu, voilà, et admiré par les militaires qu'il domine, et il va se servir évidemment de l'armée, hein, qui est une armée très disciplinée, beaucoup plus que l'armée républicaine, pour asseoir son pouvoir et aussi son autorité. Il est le généralissime, le général parmi les généraux.
Célèbre la despedida al generalísimo Franco después de su viaje por tierras portuguesas. El presidente de la República, Mariscal Carmona, llega al aeropuerto donde se hallan ya los ministros de Asuntos Exteriores, Aire y Marina de España y otras personalidades. Su Excelencia el Jefe del Estado Español es acompañado por el presidente del Consejo Portugués, doctor Oliveira Salazar. Rinden honores tropas de todas las unidades de guarnición en Lisboa y también los cadetes de la Escuela del Ejército, Escuela Naval y Colegio Militar.
Yves Léonard, Salazar n'est pas issu de l'armée, il n'est pas à la tête d'un parti. Où va-t-il trouver les soutiens qui vont le porter au pouvoir ?
Salazar est quelqu'un qui ne peut pas cultiver, entretenir le mythe de l'homme fort ou l'ultra-virilité, parce que lui-même n'est pas porté l'uniforme, il n'a jamais été photographié. C'est un homme assez, on va dire, ses admirateurs diront, il est froid parce qu'il est timide. Il y a une forme de timidité, effectivement, il n'est pas très à l'aise en société. Et la foule, il cherche tout, il fait tout pour l'éviter, à la différence d'autres dictateurs qui, eux, haranguent les foules et, dans des transes collectives, arrivent à développer un discours. Salazar, rien de tout ça. Quand il parle en public, il parle en lisant ses notes, il lit un discours, et d'une voix assez de fausset, nasillarde, désagréable, qui ne porte pas, et qu'on sent peu assuré. En revanche, tout le travail de la propagande, c'est d'en faire J'évoquais le dictateur malgré lui, le thème d'un sauveur, mais d'un sauveur qui n'est pas un homme à cheval, qui n'est pas un homme en uniforme, qui n'est pas un homme ultra viril, dont la vie privée, évidemment, est toujours enrobée, entourée d'un halo de mystère. Et donc, on ne le voyait jamais en compagnie d'une femme, alors que certains dictateurs faisaient assaut, au contraire, Mussolini et d'autres, d'une ultra virilité. Salazar n'était pas dans ce registre. Le registre qu'il utilisait le plus derrière le côté origine de la Terre, c'était le registre universitaire. Salazar s'est campé un personnage de professeur d'université. C'était aussi un professeur doutor. Et c'était comme ça qu'il voulait être perçu. C'était un professeur d'université avec tout ce que ça signifiait dans le Portugal de l'époque. Et ça, ça lui permettait à la fois d'entretenir un discours avec une distance, un respect, dû au titre universitaire qu'il incarnait, et ça, il en a beaucoup joué. Le premier soutien, sa matrice, là d'où il est issu, sa formation intellectuelle, son idéologie, son corpus intellectuel, c'est la hiérarchie catholique, c'est l'Église catholique. Il a fait le séminaire à Viseu, il a été repéré très tôt par les pères de l'Église, qui ont vu en lui un jeune garçon intelligent et travailleur. Il a suivi le séminaire, sa formation est là, il a pu, parce qu'il était avec des bonnes notes, etc., il a pu accéder à l'université de Coimbra, ce qui était très rare à l'époque, compte tenu du milieu dont il était issu, et de l'élitisme absolu du système de l'enseignement supérieur portugais de l'époque. Mais sa matrice, le cœur de sa réflexion et de ses soutiens, c'est l'Église catholique. Et la haute hiérarchie catholique ne lui ménagera jamais son soutien. Donc la hiérarchie catholique, c'est le cœur. Ensuite, il doit composer. Il n'est pas lui-même militaire, il n'a jamais porté l'uniforme. Et dans le contexte de l'entre-deux-guerres, de l'après-première guerre mondiale, c'est toujours assez prisé d'avoir porté l'uniforme. Regardez ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en Hongrie, un peu partout. Porter l'uniforme, ou en Espagne, c'est quelque chose qui vous permet d'asseoir une trajectoire. Salazar, rien du tout. Il va devoir donc composer avec les militaires, en considérant toujours que les militaires, bah, il faut les tenir la bride courte, comme on dit, la laisse courte, parce qu'ils sont toujours capables de fomenter un coup d'État. Et donc, voilà, il faut donc les avoir sous contrôle. Et c'est ce qu'il va faire durant sa phase d'ascension politique, où pour devenir président du Conseil, il faut avoir l'aval des militaires, que les militaires disent « il nous faut un civil président du Conseil ». C'était pas gagné d'avance, donc il va obtenir ce blanc-seing. Et donc, pour lui, les militaires, c'est composer avec eux, éviter qu'ils le lâchent, et ça va être une constante jusqu'au bout. Donc les militaires, c'est le corpus. Le deuxième, soutien. Le troisième, les milieux d'affaires vont être toujours dans une grande proximité avec Salazar. Il a dans son entourage un certain nombre d'hommes d'affaires importants qui, très tôt, le très puissant patron de la CUF, qui est la CUF, qui est la compagnie Union Fabril, une grande, la plus gros conglomérat, on pourrait dire, portugais de l'époque, qui va, dès son arrivée aux finances, lui apporter son soutien. Et ça, il va pouvoir toujours compter sur le soutien des milieux financiers et d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'il incarne la stabilité, il incarne l'ordre retrouvé, il incarne la confiance dans la monnaie. Et ça, pour des investisseurs, pour des hommes d'affaires, c'est en général un discours qu'ils entendent plutôt bien.
Votre attention. En ce jour, le 19 juillet 1936, l'état de guerre est déclaré à Salaman. Et avec l'aide de Dieu, dans toute l'Espagne, Article 1. Il est interdit de se réunir à plus de 3 personnes sur la voie publique.
pense qu'il faut voir en fait la dictature que Franco construit comme un régime polymorphe, un régime polycratique. C'est-à-dire que le franquisme n'est pas forcément un régime qui idéologiquement a énormément de consistance, mais ce qui le caractérise, c'est son pragmatisme. C'est-à-dire que il a dans son camp, enfin il est arrivé à unifier, au contraire du camp républicain, assez rapidement des composantes finalement assez diverses. On retrouve dans le camp des nationalistes, des carlistes, des monarchistes, des gens d'ordre, des industriels, des gens aussi qui appartiennent à l'Église catholique. Lui va parvenir à unifier cela, ou en tout cas à donner alternativement le pouvoir à différentes familles, justement, du camp franquiste. Et la famille, entre guillemets, qui l'emporte au début de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'est la Falange. C'est le moment de fascisation maximale du régime franquiste, à peu près jusqu'à l'année 1942. C'est le moment donc où le Parti unique a le plus de pouvoir dans le camp franquiste. Et c'est notamment le beau-frère de Franco, qui s'appelle Serrano Suñer, qui occupe notamment le portefeuille du ministère des Affaires étrangères, qui a des liens, qui est germanophile, qui a des liens très étroits avec l'Allemagne, qui est à l'origine de l'entrevue à Hendaye de Franco avec Hitler, de l'entrevue à Bordighera entre Franco et Mussolini. Donc c'est d'abord, dans un premier temps, celui de la fascisation maximale du régime, un moment où la Falange a beaucoup de pouvoir.
Pour les Grecs, demain, c'est Pâques.
Avril 1967.
La plus grande fête de l'année, la Pâque orthodoxe, qui se célèbre avec un peu plus d'un mois de retard, sur notre calendrier à nous. Et pour tous ceux qui ne sont pas concernés ou ne se sentent pas concernés par les événements politiques qui viennent de se dérouler dans le pays, la première préoccupation, c'est d'aller dans les petites boutiques spécialisées, acheter les guirlandes, les œufs multicolores que l'on va offrir à la famille, à ses parents, à ses amis. Aussi d'aller brûler dans les églises, dans les petites chapelles que l'on voit un peu partout, les cierges, et de préparer l'office pascal qui aura lieu demain soir à minuit. À cet office pascal, il y aura d'ailleurs certainement beaucoup plus de monde que d'habitude pour une simple raison. C'est que le nouveau gouvernement, le gouvernement militaire, vient de prendre un décret obligeant les enfants des écoles à assister à tous les offices religieux. Le nouveau gouvernement, qui se veut, selon une tradition désormais bien connue, dur et pur et même moralisateur, a aussi pris d'autres décrets interdisant notamment le port des cheveux longs et même celui de la mini-jupe, sauf pour les touristes bien entendu.
Il voulait imposer une modernisation disciplinée, si on peut dire. Et il y avait, c'était bien sûr cette construction idéologique qu'en grec on appelle hellénochristianisme, c'est-à-dire la fusion de l'hellénisme et de la religion grecque orthodoxe. L'Église avait une puissance extrême. C'était pas seulement la religion, mais c'était aussi l'Église grecque orthodoxe qui était une des institutions les plus puissantes de l'époque. L'archevêque était présent dans toutes les cérémonies de la dictature, du régime. Le programme d'enseignement dans les écoles accentuait vraiment la religiosité. Mais ça, c'était pas quelque chose de nouveau, parce que l'Église avait été toujours puissante en Grèce jusqu'à la chute de la dictature.
Pour ce qui est de rester au pouvoir, c'est vrai qu'ils ont joué avec l'Église, partant du fait qu'elle a un rôle très important, surtout à l'époque, bien plus que maintenant, non seulement dans la vie politique, mais dans les consciences. Et l'Église, elle est toujours un peu... Elle aime bien être du côté du pouvoir. Et en plus, ils obligent les étudiants à aller à la messe tous les dimanches, etc. Donc l'Église ne peut être que satisfaite de gens aussi pieux. Donc l'Église va pas être contre. Le roi, il a été pris de court et finalement... il accepte, hein, il signe les choses, et quand finalement ça prend une tournure qui lui déplaît, au bout d'un an et demi, il tente un contre-coup d'État, mais il le fabrique tellement mal qu'au bout de quelques heures, il est obligé de s'en aller et d'abandonner la Grèce.
Et qu'est-ce qui lui déplaît ?
Ce qui lui déplaît, c'est que je pense que ça va un peu trop à droite, peut-être pour lui ou pour ce qu'il estimait présentable. Lui, il se voyait bien dans le rôle d'un roi d'Angleterre qui aurait eu quand même un petit peu plus de pouvoir qu'un roi d'Angleterre. Mais là, en fait, il n'a plus aucun pouvoir, même pas celui d'un roi d'Angleterre. Donc, ça fait un peu... En fait, il représente la droite traditionnelle. Or, la différence peut-être des colonels par rapport à Metaxas, c'est qu'ils ont trouvé moyen de mettre, y compris en résidence surveillée, etc., des gens de droite. La droite libérale, elle leur plaît pas. Ils interdisent tous les partis, eux, pas seulement les partis communistes.
Tout au long de l'entre-deux-guerres, les régimes de type fasciste européen vont nouer et dénouer des liens basés sur des intérêts opportunistes. Ainsi, le régent Horthy, en Hongrie, va se rapprocher d'Hitler dans l'espoir de récupérer les territoires perdus lors de la Première Guerre mondiale. Tandis que Franco, en Espagne, va solliciter l'aide de l'Allemagne et de l'Italie pour vaincre les républicains lors de la guerre civile, avant de se retirer brutalement du jeu une fois sa victoire assurée.
Je pense que la spécificité du régime franquiste par rapport à d'autres dictatures européennes, c'est qu'elle se construit sur les cendres encore chaudes de la guerre civile. Donc elle se construit sur un pays qui est exsangue après 3 ans de combat. Et cette dictature se construit aussi sur une répression politique féroce contre ceux qui ont perdu, les républicains. On veut exterminer, annihiler ces rouges, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc clairement, pour la population espagnole, il y a un avant et un après guerre civile, d'autant que dans le cas de l'Espagne, cette dictature, cette prise de pouvoir aboutit à une dictature qui va durer jusqu'en 1975. Et ça encore, c'est une spécificité par rapport au reste des États autoritaires européens, c'est que pour le coup, Franco, pendant que Mussolini et Hitler meurent, Franco reste au pouvoir et finalement, son régime ne s'éteint que lorsqu'il meurt tranquillement dans son lit en novembre 1975.
Oui, parce qu'il aura l'intelligence de ne pas enchaîner la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale.
Alors justement, ça c'est un aspect intéressant, puisque finalement, c'est en grande partie... le soutien de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste qui explique sa victoire pendant la guerre civile. C'est-à-dire que dès les premiers jours du soulèvement, le général Franco reçoit l'appui décisif de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste. Par exemple, on lui fournit assez d'avions pour faire traverser en mois d'août 1936 20 000 soldats qui étaient en Afrique du Nord, hein, des troupes légionnaires et des auxiliaires marocains. Et vraiment, l'Allemagne et l'Italie interviennent de façon coordonnée et de façon massive, en vendant des armes, en envoyant une force aérienne, la Légion Condor, qui est celle qui bombarde le village de Guernica. L'Italie aussi dépêche une armée entière, on estime qu'il y a à peu près 90 000 soldats italiens qui combattent en Espagne. Donc ce soutien d'Hitler et de Mussolini est crucial pour la victoire des nationalistes qui sont regroupés autour du général Franco. Oui. Mais le camp franquiste se distancie progressivement pendant la Seconde Guerre mondiale de l'Italie fasciste et de l'Allemagne hitlérienne, à mesure en fait que le vent tourne, hein, du point de vue de la conjoncture internationale. Alors de toute façon, l'Espagne n'intervient jamais véritablement pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne se positionne pas comme ça. Il y a une proximité idéologique avec l'Allemagne et l'Italie, mais Franco se contente en fait d'envoyer la division Atul, donc une division armée sur le front de l'Est. Mais lorsque, en 42-43, donc lorsque le vent tourne, la politique extérieure de l'Espagne change et finalement elle adopte une position de neutralité forcée, sous la pression des alliés d'ailleurs, hein, dans le but de survivre à la défaite de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie.
Allarmi Spagna, allarmi per l'ideal. Fino alla meta trionfal. Sterminio a chi rinnega la civiltà, vinci nel grido, ala, ala. È il grido del fascismo redentor, in odio al bolscevismo distruttor. Segna col di vittoria di libertà, il tuo vessillo arriva. Arriva Espagna, arriva Espagna.
Il y a un tropisme chez Mussolini vis-à-vis de l'Espagne.
Didier Musitlac, historien.
Il envoie, vous savez, beaucoup de troupes. Pour lui, l'Espagne lui a servi un peu de laboratoire comme Hitler, vous savez, avec la Légion Condor et les massacres qu'ont pratiqué les nazis. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 55 000 soldats italiens qui ont combattu aux côtés, justement, des phalangistes et des franquistes. Donc, c'est pas rien, si vous voulez. Mais derrière tout ça, si on fait les comptes, Mussolini est déçu de Franco. Il s'attendait, justement, si vous voulez, à un système de collaboration où ils auraient pu établir pas mal de choses ensemble. Puisque bon, c'était des pays du Sud, hein. Donc normalement, il y avait une forme de tropisme et d'intérêt mutuel. Franco, lui, il est resté très en retrait, parce que lui, il avait les blessures de la guerre civile et il voulait prendre aucun risque. Donc il se sert de Mussolini au moment de la guerre civile, il se sert des nazis, mais Hitler, comme Mussolini, seront terriblement déçus par Franco. Au moment où il demande à Franco d'entrer dans la guerre, Franco dit « j'y vais pas ». Lui, il a été beaucoup plus malin que Mussolini. Il est resté à sa fenêtre et il s'est dit « on va voir comment les choses évoluent ». Alors, il y a des bonnes relations avec le Portugal. Oui, il y a des bonnes relations avec le Portugal, avec Salazar. Et il y a des bonnes relations aussi du côté sud-américain. Oui.
Comment qualifier le régime franquiste ? Est-ce qu'il s'agit d'un régime totalitaire ? Est-ce qu'il s'agit d'une dictature ? Est-ce qu'il s'agit d'un fascisme en tant que tel ? On parle plutôt d'un régime fascisant, ou en tout cas d'un moment de fascisation important, mais qui est finalement très court, hein, qui va de 1939 à 1942. La Falange perd ensuite beaucoup d'influence dans les années qui suivent. Or, c'est la Falange qui, dans le camp franquiste, et c'est le secteur dans lequel l'intérêt et l'admiration pour l'Allemagne hitlérienne, hein, sont les plus grands. Donc, on veut imiter ce qui se passe en Allemagne. On veut imiter, par exemple, l'encadrement qui se fait par le biais des organisations de jeunesse, par le biais en Espagne aussi de la section féminine au sein de la Falange. Donc, on admire dans les rangs de la Falange l'Allemagne hitlérienne, mais il y a certains aspects de l'Allemagne hitlérienne qui posent problème. Par exemple, l'eugénisme nazi n'est pas quelque chose qu'on tente d'importer en Espagne. Et finalement, le grand avantage de l'Italie fasciste par rapport à l'Allemagne nazie, c'est le fait qu'elle soit catholique, sa proximité avec le catholicisme, qui fait que c'est probablement de ce côté-là qu'on se tourne. Mais encore une fois, c'est dans les rangs du parti unique, de la Falange, qui avait été créé en 1933 par José Antonio Primo de Rivera, que cet attrait pour l'Allemagne nazie est le plus important. Donc s'il y a un moment de fascisation, vous voyez, il est court, il va de 1939 à 1942, et ensuite Franco, de façon très habile, hein, va donner du pouvoir à une famille plutôt qu'à une autre, confier plutôt le pouvoir à des monarchistes, confier plutôt le pouvoir aux technocrates de l'Opus Dei, insister sur l'Église catholique. Et finalement, c'est ce pragmatisme qui lui permet de se maintenir au pouvoir pendant quasiment 40 ans, jusqu'en 1975.
Quels sont les liens entre salazarisme et fascisme, Yves Léonard ? Qu'est-ce qui leur est commun ?
Une détestation de la démocratie libérale, du régime parlementaire. C'est un peu le maître mot. C'est honni, c'est ce qu'il faut abattre. Donc ça, c'est un trait commun. Après, vous avez dans la mise en œuvre, dans la mise en scène, des particularités selon les pays. Salazar, lui, va utiliser alors cette hostilité à la démocratie libérale, au régime parlementaire, de manière farouche. L'anticommunisme, c'est un slogan qui permet d'englober dans ce slogan tout ce qui n'est pas favorable, qui n'est pas avec moi, est contre moi. Donc, en gros, tous ceux qui sont opposés à Salazar sont des rouges. Les rouges, c'est les communistes. Pas trop. Alors, le Parti communiste qui a existé au Portugal a été interdit et les leaders communistes ont été pourchassés. Mais c'est la haine des rouges, Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de régimes de ce type. Après, Salazar, il a des éléments de singularité. Le système répressif, mais une répression, c'est toujours difficile évidemment à exprimer en ces termes, mais une répression qui est calibrée. Qui est calibrée d'abord aux moyens financiers humains dont dispose Salazar, et calibrée au regard des objectifs qui sont les siens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au Portugal, j'évoquais la guerre civile espagnole, il n'y a pas d'extermination de masse, même si il y a des assassinats, même s'il y a des suppressions, de l'élimination physique d'un certain nombre d'opposants, qu'il y a surtout une condamnation par cette administration-là, par la peur, au rebut, à être remis en marge de la société lorsqu'on est suspecté de s'opposer au régime. On perd son travail, on perd toute relation sociale, on est marginalisé. C'est ce système-là que met en place Salazar avec une police politique très présente, au moins dans les consciences, où tout le monde imagine qu'il y a un indique de la police politique qui est en train d'écouter ce que l'on dit. Ça, c'est la marque de fabrique de Salazar. Après, lui-même, vis-à-vis j'ai écrit naguère un livre qui s'appelait Salazarisme et fascisme, hein, pour faire un peu le point de toutes ces questions. Lui-même, vis-à-vis des autres dictateurs, reste toujours un peu en marge, en distance. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il ne partage pas, alors il a des déclarations pour se démarquer de l'Allemagne hitlérienne, pour prendre aussi un certain nombre de distances par rapport à Mussolini, même s'il a la photo de Mussolini sur son bureau, mais il y a toujours cette image de propagande qui est très importante. Il s'en démarque parce que, d'abord, il considère que le Portugal est à nul autre pareil. Donc, il y a la singularité portugaise. Ensuite, il se considère, lui, Salazar, comme à nul autre pareil. C'est-à-dire qu'il considère qu'en tant que dictateur, il est quand même beaucoup plus structuré, beaucoup plus intelligent que les autres. Et donc, les considère avec un certain mépris, une certaine distance, considérant que lui, il est professeur d'université et pas les autres. Et ça veut dire beaucoup dans son esprit.
Il y a aussi cette exaltation de l'homme idéal portugais qui serait là aussi plus du côté de la terre que de la guerre.
Oui, le maître mot qui a été accolé au salazarisme, et c'est une phrase que Salazar a prononcée lui-même, qu'il a déclarée à ses interlocuteurs français, notamment, il a dit « Moi, je souhaite faire vivre le Portugal habituellement, à l'accoutumée. » C'est-à-dire ne rien changer à l'ordre immuable des choses, à l'obéissance. Et cette formule du Portugal habituellement, alors, entendons-nous, Portugal habituellement, ça voulait dire, dans son esprit, respecter l'ordre établi, la hiérarchie catholique, le système des inégalités sociales, etc. Et on vivait de manière fort peu habituelle lorsqu'on s'opposait à lui, c'est-à-dire qu'on se retrouvait en prison, voire plus. Donc c'était assez inhabituel comme traitement, mais dans son idée, vivre habituellement, c'était se conformer à l'ordre établi. Et finalement, c'est ça que Salazar voulait impulser, c'était se conformer à un ordre immuable, un ordre qui s'inscrivait dans une tradition. La notion de tradition est centrale dans le salazarisme. Et quand j'évoquais tout à l'heure cet emprunt au catholicisme social ou aux encycliques sociales, c'était pour mieux respecter la tradition ancestrale et faire en sorte que par cette cure d'austérité, cette cure sur lui-même, cette ascèse permanente, eh bien, le Portugal puisse retrouver magiquement sa grandeur passée. C'est véritablement là que se situe le cœur du discours salazariste, qui ensuite, et en même temps dans les années 30, a pris d'autres tonalités, s'adaptant, je parlais du champ magnétique des fascistes, s'adaptant, empruntant à une chorégraphie notamment, et à un certain nombre d'idées, à l'ère du temps, mais avec toujours chez Salazar cette matrice qui est celui de finalement de sa jeunesse, de l'emprunt aux encycliques sociales, à une pensée contre-révolutionnaire, à une pensée très conservatrice où la tradition joue un rôle central et où le nationalisme est celui emprunté à Barrès de la terre et des morts.
Marianne Matar Bonucci, a posteriori, comment peut-on expliquer cette prolifération des régimes fascistes en Europe à partir des années 20?
Alors il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler un effet fasciste dans l'entre-deux-guerres. Je crois qu'il faut y voir la conséquence dans une large mesure. Au fond, la conjonction de deux choses. D'une part, l'héritage de la guerre, dont j'ai déjà parlé, en termes de culture de guerre, mais aussi en termes d'insatisfaction des peuples à l'issue d'un conflit qui a eu l'ampleur que l'on sait. Et la guerre, donc, a produit, a exacerbé partout en Europe les nationalismes. Et le cœur même de la doctrine fasciste, c'est le nationalisme. Et à ce nationalisme s'ajoute la peur du communisme qui existait déjà à la fin du XIXe siècle, mais qui est beaucoup plus virulente dès lors qu'un État en Europe, la Russie, s'est autoproclamée patrie du communisme et cherche à son tour à propager donc l'idée du communisme. Donc là, la conjonction de ces deux phénomènes et l'arrivée au pouvoir en 1922 d'un État lui-même fasciste qui est observé par les nationalismes d'Europe, eh bien tout cela va contribuer à effectivement la diffusion, voire l'arrivée au pouvoir de ce type de régime.
C'était « Quand vient le fascisme en Europe ?» Le champ magnétique des fascismes. Avec Joël Dallègre, Costa Gavras, Christina Coulouri, Yves Léonard, Amélie Nuc, Marianne Matar Bonucci, Didier Musidlac, Dimitris Christoulakis et Mavri Vavadjani. Traduction Hector Kourounis. Lecture Thierry Beauchamp et Christina Crévienne. Extrait des films Z de Costa Gavras, 1900 de Bernardo Bertolucci, Lettre à Franco d'Alejandro Amenábar et La marche sur Rome de Dino Risi. Coordination Marie-Vonna Bolivier et Perrine Kervran. Merci à Véronique Jolivet de l'INA, Fabien Perrier et Angélique Kourounis. Prise de son Marc Garvenès, Yves Lehors, Jérémy Tuile, Benjamin Perru, Stéphane Touvenin et Marie Lepeintre. Un documentaire de Christelle Lepolotec et François Teste.